Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La vie sur Terre est un rêve, il faut se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. C'est par ces mots presque que mon invité de ce matin finit ses mémoires. Du haut de ses 96 ans, notre homme a connu l'époque de l'Empire colonial français, a eu son premier poste ou presque à Paxé au fin fond du Laos, a failli être dévoré par les crocodiles ou par un boa, a adopté pendant un temps un lion devenu son compagnon fidèle à dîner avec le général de Gaulle, ou avait la confiance du garde des Sceaux Robert Badinter, une vie en forme de roman d'aventure, un homme que le grand âge a rendu plus philosophe. En cette nouvelle année, je vous propose de prendre de la hauteur, de voir la vie à hauteur d'un siècle ou presque. Jean Héral de Puybusque, un siècle de vie, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Je ne sais pas si c'est un thème, c'est plutôt une rencontre. Bonjour, pour commencer.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes donc l'ancien premier président de la Cour d'appel de Toulouse, en tout cas c'était le dernier poste que vous avez occupé, et ancien secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux, cette vieille académie qui prime certains poètes et qui existe toujours à Toulouse, qui est une des plus vieilles académies d'Europe. On y reviendra. Alors, ravi de vous recevoir en ce début d'année. Le vendredi, on s'essaye donc de plus en plus à des rencontres. Et aujourd'hui, c'est avec vous pour essayer de prendre un petit peu de hauteur en ce début d'année. Je commencerai par une question peut-être triviale. On a l'habitude de se fêter des bons vœux. Avez-vous passé l'âge des bons vœux? Que se souhaite-t-on comme bons vœux quand on a 96 ans?
Oui, j'ai passé l'âge. Et j'ai horreur de me saouler parce que c'est le nouvel an. Et j'ai essayé cette année, par exemple, de passer le nouvel an avec des personnes très seules et qui étaient malheureuses. Et je trouve que ça a été le plus beau réveillon de tous ceux que j'avais vécu.
Voilà, donc ça fait une bonne introduction. Alors avant que vous nous fassiez part un petit peu de toutes vos réflexions, m'avait dit aussi que vous prépariez un petit livre, en tout cas à l'adresse de votre famille, sur le grand âge et sur, on va dire, sur les trésors de cet âge de la vie. D'ailleurs, vous étiez venu à ce micro à l'occasion d'une émission sur le quatrième âge, comme on appelle ça aujourd'hui. On va essayer, dans cette première partie, de raconter un petit peu votre vie pour que les auditeurs fassent connaissance avec vous. Dans la deuxième, je le dis par pédagogie, on reviendra sur quelques grands traits de votre vie. Aujourd'hui, peu de gens peuvent venir au micro pour parler, entre autres, de l'époque de l'Empire colonial. Et à la fin, on parlera davantage de votre foi, même si elle se dessinera probablement au fur et à mesure de l'émission, et de l'engagement que vous avez auprès des personnes malades. Alors, vous êtes né le 25 août 1923 à Toulouse, de père et de mère. Et comment vous présenteriez votre milieu familial? Vous êtes quoi, fils de grand bourgeois, on va dire?
Non, pas grand bourgeois, bourgeois tout court. Bourgeois tout court, Mon grand-père maternel était un industriel de Toulouse, M. Bonnet. Du côté Puybusque, oui, du côté de mon père, alors, c'est une très vieille famille toulousaine qui remonte au XIVe siècle. Je suis fier de la porter, oui. Un très vieux nom de Toulouse.
Comment vous décririez votre enfance? Votre père était rentier, je crois?
Oui, mon père a hérité d'une très grosse fortune. Qu'il a dilapidé joyeusement, du reste. Il n'avait aucun intérêt pour l'argent, il en avait trop sans doute. Oui, il a été avoué pendant un bout de temps, mais ça ne lui a pas plu. L'argent ne l'intéressait pas.
À quoi ressemblait votre enfance, du coup?
Mon père était un très bon père. Maman, j'en parlerai, je crois, tout à l'heure, était une maman extraordinaire qui a voué toute sa vie, en dépit de ses souffrances, au service des autres, de ses enfants et de tous ceux qui venaient frapper à sa porte, malheureux, seuls, etc.
Donc vous avez vécu une enfance, on va dire, relativement heureuse. Vous disiez que vous aviez des parents qui étaient moyennement assortis, à vous lire en tout cas.
Oui, pas très bien assortis. Papa, c'était, je peux le dire, avait un défaut, il était un peu coureur. Je crois que maman en a beaucoup souffert. Voilà. Mais c'était un bon père quand même.
C'était un homme très cultivé, vous me disiez aussi.
Très cultivé.
Donc enfance, on va dire bourgeoise, enfance relativement paisible à vous lire. Qu'est-ce que vous diriez de, je sais pas, de la sensibilité politique ou religieuse de vos parents ?
Oh, mon père était Action française. Charles Maurras, je me rappelle avoir dîné avec Charles Maurras à Fabier, chez moi à Lonagay, là. Oui, il était Action française. Pendant la guerre, il n'a pas du tout été collabo comme certains l'ont prétendu. Non, non, il n'était pas collabo. Il n'aimait pas beaucoup les Allemands, encore moins les Anglais, du reste.
Votre mère, donc, c'était la figure de la femme de foi, mais ça peut-être qu'on oui. On y reviendra plus tard. Donc, vous grandissez, on va avancer à grands traits sur votre vie. Hein. Vous dessinez assez rapidement donc, des études de droit, mais avant d'arriver à ça, j'ai cru comprendre en lisant vos mémoires que vous avez eu comme camarade de classe un certain Jean-François Revel, voilà, qui est un, on va dire un nom hein, pour ceux qui sont en tout cas de ma génération, qui est mort en 2006, qui était un essayiste et écrivain, un philosophe. Dites-nous quelques mots peut-être sur Jean-François Revel, qui a été une grande figure intellectuelle française.
Oui, Jean-François a été un grand ami. J'ai fait toutes mes classes chez les jésuites de Marseille avec lui, toutes, de la 9e à la philo. Il s'appelait Ricard à l'époque.
C'est donc le père de Mathieu Ricard, qui aujourd'hui est le porte-parole du Dalai Lama en France.
Exactement. J'ai cru comprendre... Il était très réservé sur ce domaine, mais j'ai cru comprendre qu'il reprochait à son père d'avoir une attitude un peu douteuse pendant la guerre sur le plan de la collaboration. J'ai cru comprendre, je me trompe peut-être.
Alors vous avez connu aussi la Seconde Guerre mondiale, oui c'est ça, vous avez connu la libération de Toulouse. Si on s'arrête juste sur ce point d'histoire, à ce moment-là vous étiez déjà étudiant en droit, hein ?
Oui.
Voilà, la libération de Toulouse, quel souvenir vous en avez ?
Eh bien, je l'ai vécu aux premières loges, puisque j'étais pompier. J'avais quitté les chantiers de jeunesse, contrairement aux ordres reçus, parce que je ne voulais pas travailler pour les Allemands. Et j'avais peur d'être retrouvé. Et mon cousin, Pibusque, s'était planqué dans les pompiers. Il me conseillé de faire de même. Je me suis donc engagé dans les pompiers et j'ai éteint les feux les incendies que les Allemands allumaient un peu partout, notamment la Gestapo. Oui, pendant toute la libération, j'étais sur des camions de pompiers.
Donc c'était des scènes de guerre, évidemment, mais c'était aussi des scènes de liesse après la libération de Toulouse.
Oui, oui, oui. Le souvenir que j'en garde, c'est là où est le palais de justice de Toulouse, je me rappelle être allé éteindre un incendie par là, et sur le toit de l'immeuble qui est à droite, là, en allant vers la Garonne, il y avait des gars qui tiraient. Et on ne savait pas si c'était des Allemands, des résistants, on ne savait pas. Ça tiraillait dans tous les sens.
Voilà, donc vous avez connu la libération. En tout cas, déjà, ça pose le décor. Vous vous rappelez dans vos mémoires que la France était derrière le maréchal Pétain. À vous lire, et c'est ce qui est intéressant aussi quand on reçoit des témoins, c'est que l'histoire est peut-être moins simple, ou en tout cas, elle est plus contrastée qu'on l'imagine. Vous êtes donc étudiant en droit. Après, vous rentrez à l'École nationale de la France d'Outre-mer. Expliquez-nous ce qu'était cette École nationale de la France d'Outre-mer que certains, peut-être parmi les auditeurs, ont connu ou même ont fait.
C'était l'ancienne, on l'appelait école coloniale. C'était celle qui formait les administrateurs et les magistrats qui étaient destinés à partir outre-mer.
C'est donc ce que vous avez fait. Vous avez eu donc une longue carrière en partie outre-mer. Alors on va peut-être pas la détailler. En tout cas, on peut donner les grandes étapes. Vous avez commencé donc au Vietnam. Donc c'était à Hanoï. Voilà. Ensuite, vous avez été au Laos, à Paxé. On va s'arrêter davantage sur ce passage. Après, vous avez été en poste à Madagascar. Ensuite, à Djibouti. Avant d'aller, si je ne me trompe pas, à nouveau en poste.
Antigouane.
Voilà. Fort-de-France. Oui. Avant de revenir en France et de finir au gré de vos mutations donc à Toulouse, où vous avez été donc le premier président de la Cour d'appel de Toulouse.
Oui.
J'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu de ce premier poste à Paxé.
C'était à Hanoï, mon premier poste.
Non, pardon, deuxième poste. Ça peut illustrer un petit peu ce qu'était l'aventure de la vie de juge dans l'empire colonial. Vous dites que là-bas, vous avez cette phrase, c'était le paradis m'attendait et je n'ai pas été déçu. Ouais. À quoi ressemblait cette vie au fin fond de l'empire colonial français ?
Une liberté totale. J'ai connu au Laos, à Paxé, oui, une liberté totale. Je n'avais de compte à rendre à personne. Vientiane, la capitale, j'avais un premier président là-haut, mais il n'y avait pas de téléphone. J'étais seul, pratiquement seul à Paxé. Nous étions combien ? 3, 4 blancs, peut-être, c'est tout. Donc j'ai été amené à très rapidement parler la langue. En quelques mois, je débrouillais en laotien.
Vous couvriez un territoire aussi assez
très grand,
très important. Hein.
Très grand. Et une impression de solitude totale, de liberté totale, au milieu d'une nature fantastique, de beauté. Le Mékong coulait à ma porte. C'était absolument merveilleux. J'étais dans la beauté.
Vous avez connu une peuplade qu'on appelle
Les Moy.
Les Moy, voilà. Vous dites que vous les avez beaucoup appréciés.
Beaucoup.
Vous pourriez dire quelques mots sur cette peuplade ?
Oui. Quand on parle de sauvage, ça me fait bondir. Parce que j'ai connu ce peuple Moy qui vit à l'âge de pierre presque. Ils vivent de la chasse, de la cueillette, c'est tout. Mais c'est le peuple que j'ai trouvé le plus heureux, le plus harmonieux de la Terre. Il y a une solidarité entre eux extraordinaire, un accueil formidable, une gentillesse. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je pense qu'ils sont beaucoup plus civilisés que nous, au fond.
En tout cas, à vous lire, donc, ça a été. Vous avez dit aussi, vous avez aussi cette phrase, ce séjour a fait de moi un déraciné. On sent donc que cette vie d'aventure vous a profondément marqué. Vous dites d'autres choses aussi. Vous dites entre autres que peut-être là-bas vous y avez, non pas vous y êtes perdu, mais enfin vous aviez pris un chemin qui vous avait un peu éloigné de vous-même. Si on avance, j'aimerais qu'on s'arrête sur un autre poste avant de parler un petit peu de la France. Et puis après, on reviendra évidemment sur votre vie à travers plutôt quelques grands thèmes. C'est la période à Djibouti. Donc vous avez été en poste à Djibouti. Alors Djibouti, les gens situent peut-être davantage et certains peuvent être envoyés encore là-bas comme militaires. Vous dites que c'est le lieu. Est-ce que vous pouvez nous parler du lieu ? Vous dites que c'est un climat très dur, 7 mois par an. Il fait plus de 50 degrés. On boit 12 ou 15 litres. Vous dites que les gens sont relativement violents là-bas. Expliquez-nous un peu cette fournaise qui paraît être...
Oui. Je reviens sur le terme de sauvage qu'on attribue trop facilement à certains peuples. Les Somalis sont des gens très durs. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu survivre en dépit d'un climat effrayant. Pas de culture, rien. Et ils ont tenu le coup. Ils peuvent être très brutaux. Ils peuvent tuer comme on tue un lapin.
Vous dites que c'est une population réputée pour sa sauvagerie.
Oui, exactement. Non, mais le terme ne me plaît pas.
Ce ne
sont pas des sauvages.
C'est un peu indélicat, en effet.
Quand on a leur amitié, c'est formidable ce qui se passe. Oui.
Alors, ça, c'est... qu'est-ce que vous faisiez là-bas ? Donc, J'étais
président
de la cour d'assises.
De la cour d'appel.
De la cour d'appel,
oui.
Voilà.
Il y avait une petite cour d'appel à Djibouti.
Est-ce que vous pouvez décrire un peu la vie que vous aviez là-bas ? À quoi ressemblait la vie quand on était président de la cour d'appel dans ce lieu ? Aussi peut-être toute la vie sociale, la vie mondaine que vous aviez là-bas ?
Oui, il y
là-bas
avait...
C'est là-bas que vous avez dîné avec le général de Gaulle, c'est ça ?
Il y avait un gouverneur, il y avait des administrateurs, il y avait plusieurs districts. Donc forcément, on avait la marine, surtout la marine était très présente. C'était un port très, très important, Djibouti. C'est toute la communication avec l'Asie qui passait par là, le canal de Suez. Donc on était amené à sortir pas mal, oui, il y avait pas mal de mondanité.
Dites-nous un mot de ce dîner avec le général de Gaulle. Alors, il semble-t-il, il n'était pas dans un bon jour à vous entendre.
Non, de Gaulle était un peu gêné parce que les domestiques étaient somalis. Il n'était pas possible d'aborder des problèmes locaux. Ce qui m'a frappé, c'est l'attitude de sa femme, Tante Yvonne, comme on l'appelait, que j'ai trouvé un peu dure avec le personnel somali, justement. J'ai senti chez elle un peu de mépris. Je ne crois pas que ça corresponde du reste à sa personnalité profonde, mais enfin, c'est l'impression que j'avais eue.
Voilà, c'est en tout cas...
Et le drame a été quand De Gaulle a voulu se coucher, parce que ses pieds dépassaient largement, le lit était trop petit, trop petit à 11h du soir, il a fallu changer le lit.
Voilà, donc quand on s'appelle le général de Gaulle, on a le droit à un autre lit, on a les pieds qui dépassent. Vous êtes, j'ai oublié de dire, évidemment, vous êtes marié, vous avez eu deux filles. Si on finit cette première partie par votre carrière en France, vous revenez en France, vous êtes en poste à Poitiers, vous aviez quel âge à ce moment-là ?
Oh, voyons, je suis revenu en France en 1960.
Ça remonte à loin, mais bref, vous aviez une petite quarantaine d'années.
Oui, à peu près.
Donc vous êtes en poste à Poitiers, et puis après, donc, vous êtes...
Amiens.
Vous êtes muté à Amiens, Reims, et vous finissez à Toulouse.
Oui.
Donc vous avez été donc, premier président donc, de la cour d'appel de Toulouse. Alors vous avez un mot, quand vous revenez en France, vous dites « Tout en France m'apparaissait conventionnel et sans grand intérêt ». C'est quoi ? C'est le blues de l'expatrié ou c'est plus profond que ça ?
Non, c'est profond. J'ai eu l'impression que les gens avaient une étroitesse d'esprit. Que outre-mer, on fréquentait des gens, par exemple à Djibouti, c'était des Américains qui passaient, les Anglais, tout ça. On avait des contacts avec des tas de nations. Alors qu'en France, j'ai eu l'impression d'un peu être enfermé dans quelque chose d'un peu étroit. Et le comble a été quand j'ai débarqué à Paris, là, j'aurais pas eu ma mère, je crois que je serais reparti tout de suite. J'ai été paniqué par l'ambiance parisienne.
Alors ça, c'était un peu plus tôt, hein, quand vous étiez revenu entre deux postes. Pour finir, avant qu'on fasse une première pause, après on reparlera davantage donc, de cette époque de l'Empire, ce contact avec la nature que vous avez eu, parce qu'à l'époque, donc, on chassait en se posant moins de questions qu'aujourd'hui. Et en tout cas, vous avez vu une splendide nature et puis été au contact d'un certain nombre d'animaux. Vous avez connu aussi, même si l'un et l'autre n'ont aucun rapport, était le témoin de grandes détresses. Vous me dites en préparant cette émission, avant cette émission, que vous avez connu une vie d'aventure qu'aujourd'hui peu d'hommes peuvent connaître. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, je pense que ça n'existe plus maintenant, ça ne peut plus exister. Une liberté comme celle que j'ai connue, l'argent n'avait pas cours. À Paxé, je n'avais pas besoin d'argent. L'argent n'existait pas. Je ne me suis jamais préoccupé de savoir où mon traitement pouvait tomber. Et ça, c'est fantastique de pouvoir passer 6-7 ans sans complet détachement de tout souci matériel. Et une liberté qui me permettait de partir en brousse quand j'en avais envie. Je me dis passer toute une semaine, c'était merveilleux. Une vie de liberté totale.
Voilà, ça n'est pas vendredi ou la vie sauvage, mais en tout cas, il y a quelque chose d'une vie sauvage qui convient peut-être parfois aux hommes que l'on peut entrevoir dans ce court chemin de vie qu'on a essayé de résumer. On va faire une première pause et puis on vous retrouve pour continuer à parler de votre histoire et par la même occasion d'une page d'histoire de la France et puis des leçons que vous pouvez aussi en tirer ou des enseignements que vous pouvez nous donner.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Jean-Néral de Puybusque, un siècle de vie, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient, une émission de rencontre avec vous. Donc Jean-Néral de Puybusque, vous êtes ancien premier président de la Cour d'appel de Toulouse et ancien secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux, et donc surtout vous avez un certain âge, j'allais dire surtout parce que c'est là, évidemment c'est la marque un homme, vous avez aujourd'hui 96 ans, vous êtes né en 1923. On a essayé donc d'avancer à grands pas, trop grands pas pour une vie, hein, pour essayer de vous situer. J'aimerais qu'on revienne, alors on va progressivement arriver à, on va dire à toutes les leçons que vous tirez eu égard à votre grand âge. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu davantage de l'Empire colonial français. Vous avez un mot en parlant de votre premier poste à Hanoï, donc vous étiez juge dans l'Empire colonial, je le rappelle. Vous dites l'Empire colonial était une réalité culturelle. L'idée même que cet empire pouvait disparaître un jour n'effleurait pas l'esprit de l'époque. Décrivez-nous cette époque où en fait l'Empire français était éternel.
Oui, c'est exactement comme ça. La population française avait conscience que cet empire ne pouvait pas disparaître. Il n'y a eu à cette époque-là, en 1948, que le Parti communiste qui a pris position contre cet empire, à savoir c'était le commencement de la guerre d'Indochine. À ce moment-là, c'était pas la guerre, c'était une petite révolution locale. C'est devenu une guerre qu'ensuite. Le Parti communiste soutenait donc le Viet Minh. Mais pour la population et pour les gouvernements qui se sont succédés, l'Empire était là et devait rester là. Donc je suis parti vraiment sans l'ombre d'une hésitation et sans remords aucun. J'avais conscience de servir mon pays. Il n'y avait pas pour moi de problème. Lorsque je suis arrivé là-bas, je ne me suis jamais senti supérieur. J'ai tout de suite admiré ces peuples asiatiques, intelligents, cultivés, qui m'apportaient beaucoup. Je les ai beaucoup admirés. Je ne me suis jamais senti supérieur.
Alors souvent, quand on fait un petit peu d'histoire, on a l'impression que, en tout cas, quand on a pu discuter avec des gens qui ont connu cette époque, ils nous disent que, tous les gens qui vivaient tous les Français qui vivaient dans les colonies n'étaient pas forcément des méchants colonisateurs. Et à contrario, certains nourrissent une forme de remords d'une attitude avec les populations locales. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, peut-être la manière dont vous l'avez vécu? À lire vos mémoires, on a l'impression que c'est justement assez contrasté.
Non, je n'ai pas du tout de remords.
Vous décrivez certaines attitudes parfois par rapport aux populations locales ou...
C'était difficile, parce qu'appliquer la loi française dans ces pays-là, c'était pas évident du tout. Alors j'essayais de concilier cette loi française, la loi pénale surtout, avec les mœurs locales, et qui n'ont rien à voir avec notre code pénal. J'ai connu des surprises difficiles à avaler dans ce domaine-là.
Vous pouvez prendre un exemple ?
Oui, lorsque, par exemple, arrivé à Paxé, il y avait beaucoup de vols de buffles dans la région. Et alors, j'ai formé un petit corps l'armée japonaise était partie, il n'y avait plus de gendarmes, rien. Je forme un petit corps de gendarmes et je leur ai dit, faites-moi cesser ces vols. Alors, ils sont partis, ils étaient cinq. Ils sont partis, et pendant 15 jours, plus rien, et puis un beau jour, je les vois revenir en tenue de brousse dégueulasse, avec des paniers. Alors ils me présentent un procès verbal. Nous, gendarmes en Thaïlande, conformément à notre ordre, monsieur de Puybusque, nous sommes rendus en Thaïlande. Oh, je me dis, aïe, aïe, aïe. Avons arrêté les nommés en tel, 5 gendarmes de Sa Majesté le roi de Thaïlande. Les avons interrogés, ils ont avoué. Compte tenu des difficultés de transport, les avons exécutés, 6 joints photos des têtes. Et il y avait 5 têtes sur un caillou qui m'était présenté.
Oui, donc c'est une autre ambiance. C'est... À propos de cet empire colonial, vous avez une phrase aussi à un moment. Vous dites que quand vous êtes allé en Éthiopie, on y reviendra peut-être à cet épisode avec l'un de vos frères, Claude, puisque vous avez eu deux frères, Édouard, votre aîné, et Claude, celui qui vous suivait. Vous dites en ces lieux, et on a l'impression que bien en plusieurs lieux de l'empire, la démocratie s'inclinait devant la tradition. Vous laissez entendre que voilà, on faisait aussi avec les régimes politiques, je ne sais pas si on peut dire comme ça, locaux. Pourquoi cette phrase, la démocratie s'inclinait devant les traditions?
Parce que je reproche à nos peuples occidentaux d'avoir prétendu détenir la vérité politique avec la démocratie. Or, ces peuples d'Afrique et d'ailleurs ignoraient totalement la démocratie. Pour eux, ça ne signifiait rien. Ça ne signifiait rien. Ils avaient un chef qu'ils choisissaient ou qui était là par hérédité, mais peu importe. Et voilà. Une sorte de dictature, si on veut, appelons ça dictature, mais dans leur esprit, ce n'était pas une dictature. Voilà, pour eux, c'était nécessaire, ça assurait leur survie, parce que ça assurait le bon ordre, il n'y avait pas d'élection, tout ça, ça se passait très bien. La Somalie n'avait jamais connu, ignorait le terme de démocratie, ça ne leur disait rien. Et les Éthiopiens non plus, du reste.
Voilà, donc vous voulez dire que l'empire colonial s'accommodait aussi de quelques réalités locales.
Mais
il fallait.
Il fallait s'accommoder de certaines choses. Quand je rendais la justice, je faisais attention. J'essayais qu'elle soit compréhensive pour eux.
Vous avez aussi cette phrase, la plupart des nouvelles démocraties débouchaient bien souvent sur des dictatures. Mais ça serait peut-être un long dégagement que de parler de ça. Alors j'aimerais qu'on aborde un autre point, j'ai appelé ça la vie sauvage, puisque ça vous a fait sourire quand j'ai mentionné ça en introduction, mais tout le monde n'a pas failli être étouffé par un boa, n'a pas failli être tué et mangé par des crocodiles, ou n'a pas presque adopté un lion qu'il reconnaissait et qui courait vers vous quand vous alliez au zoo. Donc vous avez vu en tout cas une nature splendide, au-delà de l'habitude que vous avez eu donc de chasser, hein, peut-être qu'aujourd'hui ce serait difficilement compréhensible. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la splendeur de cette création, de souvenirs que vous avez comme ça?
Le sud-est asiatique est une région privilégiée, la nature y est somptueuse, elle n'a pas été bougillée comme elle l'est dans nos pays occidentaux. Les animaux proliféraient. J'avais un peu chassé en France pour manger pendant la guerre, mais là-bas, les éléphants, par exemple, descendaient, ravageaient les rizières, et les pauvres Laotiens n'avaient plus rien à bouffer. Les tigres venaient se servir dans les villages, prenaient un homme, une femme, en général c'était une femme.
Oui, vous rapportez comme ça un tigre que vous avez contribué à chasser, qui avait tué une dizaine d'hommes et de femmes.
Alors j'allais chasser à la demande des populations locales pour leur donner de la viande. Il y avait des coulis sur la route qui reliait Paxé à Vientiane qui avaient faim. J'allais tuer quelques animaux pour qu'ils aient de la viande, des choses comme ça. Ça n'avait rien à voir avec la notion de chasse que nous avons en France.
Voilà, mais qu'est-ce que vous diriez de la beauté de cette création? Parce que là, on entend parler du chasseur, mais...
la forêt laotienne. Le Mékong, d'abord, qui est un fleuve d'une majesté incroyable. À l'époque des hautes eaux, c'était somptueux. La Thaïlande était de l'autre côté du fleuve. Là, je traversais la frontière. Il n'y avait pas de frontière, du reste. On y allait librement. Et la forêt était une forêt absolument vierge.
Parlez-nous aussi un peu du désert que vous avez connu quand vous êtes allé en Éthiopie. Lorsque vous étiez en poste donc à Djibouti, vous avez fait une incursion là-bas. Vous commencez d'ailleurs vos mémoires par ce souvenir. C'était donc en novembre 1960,
oui.
Où vous dites que là, vous étiez donc avec votre frère Claude qui était dans le coin en voyage de noces.
Oui.
Puis vous êtes échappés tous les deux.
Oui.
Et là, vous avez vu donc un peu ce que vous rêviez de voir l'un et l'autre, c'est-à-dire un lieu totalement vierge de toute civilisation, c'est ça?
Totalement vierge, infini. Une impression d'infini, le désert qui s'étend à perte de vue, pas signe d'une, d'une présence humaine, rien. Et vraiment là, au lever du jour, nous avions passé une nuit entourée de hyènes, ce qui n'était pas très agréable, et au matin, le soleil s'est levé sur cette étendue immense. Mon frère, qui n'avait jamais quitté la France, m'a dit « Pince-moi », il m'a dit « Je dois rêver », tellement c'était beau.
Voilà, on sent aussi que vous avez vécu là-bas comme une expérience un peu mystique. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Alors je saute de l'un à l'autre, hein. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais on va dire que c'est des choses que j'ai picorées dans votre vie. Vous avez vu aussi la misère les yeux dans les yeux. Alors on imagine que quand on est juge, ça fait aussi partie du métier. J'aimerais que vous, par exemple, vous citiez quelques épisodes. Vous parlez dans vos mémoires un moment d'un... Je ne sais pas si c'est un village de lépreux ou une personne lépreuse. Racontez-nous cet épisode douloureux.
Oui, là, c'est un des grands remords de ma vie. Ce n'est pas facile à porter. Il y avait un pasteur protestant.
Donc, quand vous étiez en poste ?
À Paxé,
donc au Laos.
Il s'occupait d'un village de lépreux. Il leur apportait les médicaments qui convenaient. Et quand il est parti, il m'avait demandé de lui succéder. Je ne l'ai pas fait. Peur de la lèpre. Non, je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle pas. J'étais occupé, mais enfin voilà. Et oui, c'est un des remords de mon existence, oui.
Donc des misères, vous en avez vu beaucoup. Vous en avez vu aussi quand vous étiez en poste à Djibouti, puisqu'il y avait des grandes famines à ce moment-là en Éthiopie, et vous avez été chargé par l'évêque local, je crois, ouais, de mener des actions en lien avec le Secours catholique. Racontez-nous cet épisode aussi, la manière dont la grande pauvreté est entrée dans votre vie.
Ben, c'était le Secours catholique. Mon évêque m'a demandé de le prendre en main. Il y avait de la famine à l'intérieur, dans les confins éthiopiens. Et l'American Relief Service, qui était un service américain énorme, apportait des vivres, des bateaux entiers de bouteilles d'huile et de choses comme ça. Et j'étais chargé de répandre, de donner ça dans les régions où la famine régnait. Alors, on a mis deux camions à ma disposition. Je partais en brousse et je distribuais.
On a l'impression qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans votre vie. Alors après, on va y revenir. Vous vous êtes mis donc au service de plus en plus, ouais, des autres, et en partie donc aujourd'hui des personnes malades et des personnes en fin de vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre vie ? Vous êtes devenu aussi... vous êtes mis au service. Enfin, le mot peut paraître simple, mais...
Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais mené une vie assez déréglée et égoïste. Moi. Et je me suis aperçu, j'ai touché du doigt la misère humaine.
C'est-à-dire que vous ne l'aviez pas vu avant, pourtant vous l'aviez vu avant.
Non, mais... au Laos, il n'y avait pas de misère.
D'accord, donc ce village de lépreux était un peu une exception.
C'était la première fois dans ma vie que j'étais confronté à ça. Des gens qui mouraient de faim, littéralement. Et alors, je suis allé à eux. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie a changé d'orientation. Je dois dire que les Américains jouaient un rôle humanitaire formidable dans ce domaine. Si les populations somalies ne sont pas mortes en trop grande proportion, c'est grâce à eux.
Alors c'est pareil, hein, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est parce qu'on picore dans votre vie comme dans un tableau impressionniste différents aspects de votre vie. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'esprit français, en tout cas c'est comme ça que je l'ai appelé, parce que voilà, quelqu'un qui a connu l'Empire colonial, après donc vous avez été secrétaire perpétuel de cette académie de lettres, qui est donc l'Académie des Jeux Floraux, qui est très connue à Toulouse, donc vieille, on va dire, société savante, qui prime des poètes et autres. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de l'esprit français, ou plus précisément, ma première question qui viendrait, c'est que souvent, quand on a croisé des personnes, on va dire, de votre âge, qui ont connu cette période de l'histoire de France, on avait l'impression qu'il y avait une autre manière de concevoir la France ou de se sentir français. Est-ce que vous diriez que vous avez, oui, vécu les choses comme ça, que, oui, vous avez l'impression d'être un Français d'une France d'un autre âge ?
J'ai eu l'impression, quand j'étais au Laos, de ne plus être français. Vraiment, j'ai voulu devenir laotien, tellement j'admirais ce peuple et je l'aimais.
Mais la conscience qu'on avait d'être français à l'époque, à quoi elle ressemblait ? Qu'est-ce qu'il y avait de différent d'aujourd'hui, en fait ?
Il y avait de tout. les Français qui étaient là-bas. Et j'en ai connu qui se comportaient mal, un peu en dominateur. J'en ai connu, au contraire, qui étaient très au service de ces peuples.
Est-ce qu'on avait la conscience d'avoir une mission, en fait, à porter?
Ah,
on
oui.
parle parfois de la vocation de la France.
Oui, ça, je l'ai eu nettement. Je suis parti avec l'idée, je vais leur apporter un peu de civilisation, si on veut. Et un peu, et j'ai vite tourné kazakh. J'ai compris tout de suite qu'en fait, de civilisation, c'était eux qui m'apportaient des thèmes que je n'avais jamais envisagés en France.
Est-ce que vous avez souvenir d'une rencontre avant qu'on fasse une deuxième pause comme ça qui vous a marqué, ou d'une personne où vous avez eu l'impression d'avoir beaucoup reçu et d'avoir pris au piège un peu de cette l'idée qu'on se faisait de la France à l'époque, ou du rôle que la France avait dans le monde?
Oui, j'ai connu le roi du Laos, Savang Vatana, qui était un grand seigneur, un grand bonhomme, d'une gentillesse, d'une bonté, d'une humanité incroyable. J'ai connu le prince Bounoum de Champasak, qui était du même acabit. J'ai eu la plus grande estime pour ces hommes-là. Oui, ils m'ont marqué définitivement. Et j'ai même, au point du reste, que j'ai failli verser dans le bouddhisme, alors que j'avais reçu une éducation chrétienne. J'ai été attiré par le bouddhisme.
Alors on va faire une deuxième pause, et puis on va reparler de votre vie de foi. On a oublié de dire que, par exemple, dans votre enfance, vous étiez traversé par beaucoup de doutes, c'est ce que vous dites, parce que le catéchisme de l'époque avait de quoi décourager les plus mystiques, dites-vous. Et puis on entend donc que vous avez été tenté par le bouddhisme. Bref, on va faire une deuxième pause, et puis on va parler un peu de votre chemin de foi et de la manière dont Dieu vous a rejoint au long de ces années. Vous dites, entre autres, dans vos mémoires, les signes de Dieu sont discrets, et ils sont sujets à contestation, comme le linceul de Turin, mais ils sont la base aujourd'hui d'une immense espérance et d'une totale confiance pour moi, donc pour vous.
Emmanuel Pella.
Jean-Nérald de Puybusque, un siècle de vie, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec ce même monsieur, voilà, grand monsieur, en tout cas homme d'un certain âge. Vous nous accompagnez pour cette émission de rentrée. Vous êtes ancien premier président de la Cour d'appel de Toulouse et ancien secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Fleuraux, cette académie, on va dire, des belles lettres à Toulouse. J'aimerais dans cette dernière émission aller qu'on prenne un petit peu de hauteur après cette très longue introduction. Dans vos mémoires, vous parlez aussi à la première personne, bref, vous vous livrez un petit peu dans ces mémoires qui sont adressées à vos proches, on vous remercie de nous l'avoir fait suivre. Vous dites « je ne veux pas laisser l'image d'une sorte de Tartarin ». Vous laissez entendre que, voilà, que l'âge, un certain âge, est sujet à de grandes questions. Vous citez le philosophe Gustave Thibon, disons, qui dit souvent « je ressens une intense anxiété ». Enfin, qui disait ça, en tout cas, vous rapportez ces propos-là. Jean-Nérald de Puybusque, Dieu à vous lire, en fait, a été pendant un certain temps absent de votre vie. Et petit à petit, en fait, sa présence s'est dessinée. Comment vous êtes devenu croyant ?
Grâce à ma mère. J'ai passé 9 ans chez les jésuites à Marseille, j'en garde un très bon souvenir du reste. Mais enfin, c'était une religion un peu formelle, il fallait assister à la messe toutes les semaines, etc. Ma mère m'a donné l'image de ce que devait être un chrétien. Elle, comme je l'ai dit au début, elle ne vivait que pour les autres en dévouement fantastique. Elle n'était qu'amour, dévouement. C'est elle qui, lorsque je suis revenu d'Extrême-Orient, j'étais complètement désemparé. Je n'étais plus français, je ne savais plus ce que j'étais. Et c'est elle qui a pris ma main.
Voilà, vous êtes ému, mais en tout cas, je peux raconter cet épisode. Vous étiez à Paris, vous étiez un peu déboussolé.
Bien, mon petit. C'est grâce à elle que je ne suis pas reparti pour là-bas.
Alors, j'aimerais que vous racontiez aussi le décès de votre frère Claude, parce qu'à ce moment-là, vous avez comme touché du doigt, en fait, la présence de Dieu et aussi, peut-être, la grandeur d'âme de votre mère. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement ce terrible épisode ?
Claude a été tué sur une route du Gers en novembre, écrasé contre un arbre.
Novembre 1900. Bref, il y a un bout de temps, en tout cas. Il avait 23 ans, vous me disiez.
Oui. Et maman savait quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je crois que peut-être n'en avait-il pas assisté à la messe le dimanche d'avant. J'en sais rien. Toujours est-il qu'elle souffrait qu'il n'ait pas eu l'absolution avant de mourir. Elle a prié pendant 2 mois, 3 mois, intensément, comme elle savait prier. Et j'allais repartir pour la Somalie, je crois. Je reçois un coup de fil d'un jeune prêtre du Gers qui me dit « Monsieur, vous êtes bien le frère d'eux, il faut que je vous parle. » Je lui dis « Mais vous pouvez me parler, mon père ?»« Non, il faut que je vous voie. » »« Ah bon, eh ben, je viens. » Florence du Gers. Je suis parti à Florence du Gers, je tombe sur un jeune prêtre qui me dit « Voilà. » Il me demande tout de suite « Votre frère était-il un saint ?» Je dis non, il était chef scout, il était croyant, mais je ne crois pas que c'était un saint. Alors il me dit, voilà, cette nuit-là, il a fallu pour une raison que je ne savais pas pourquoi. Il a fallu que je prenne ma voiture et que je parte, il pleuvait, il faisait froid, les routes étaient désertes. Je me suis trouvé derrière sa voiture quand il s'est écrasé contre un arbre. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai donné l'absolution. Pour moi.
Alors il vous a donné l'absolution et après le prêtre rajoute.
Alors il m'a dit, je vous demande s'il était un saint, parce que depuis ce moment-là, je reçois des grâces comme je n'en ai jamais reçues, même au moment de mon ordination. Voilà, pourquoi ?
Et vous dites que.
Alors,
je
n'ai pas su quoi répondre sur le moment. Et c'est après, je me suis dit, mais voyons, les prières de maman ont rejailli sur ce prêtre.
Qu'est-ce que vous diriez de la foi, en fait ? Vous avez l'habitude de dire que vous n'aimez pas dire que vous avez la foi. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ?
Non, je n'ai jamais prétendu avoir la foi. J'ai une immense espérance, oui, mais je trouve d'une prétention très forte. Dire « je détiens la vérité, je détiens la foi », non. Je pense que la foi, c'est le fruit de la recherche de toute une vie, toute une vie, et on en approche lentement. Lentement. Mais c'est, en réalité, c'est une, je le répète, c'est une immense, immense espérance, solide du reste, très solide. Parce que j'ai eu tellement d'indices dans ma vie de l'amour de Dieu que, je crois,
qu'est-ce
je
que
crois
vous, sur l'amour. Qu'est-ce que vous voulez dire quand j'ai cité cette phrase qui est dans vos mémoires, un peu plus tôt dans l'émission, dans la deuxième partie, les signes sont discrets, donc les signes de Dieu, sujets à contestation, comme l'est le linceul de Turin. Ils sont pourtant la base d'une immense espérance et d'une totale confiance pour vous. Ces signes, c'est quoi en fait? Pour avoir la foi, il faut apprendre à voir ce qu'on ne voit pas d'habitude?
Il faut apprendre à voir dans nos vies les signes de Dieu qui sont dissimulés, dont on ne se rend pas compte, souvent. On se dit, tiens, c'est le hasard qui a fait ça. Quand mon mariage, par exemple, c'est le hasard. Non, ce n'est pas le hasard. Il y a des signes, mais qui sont toujours sujets à caution, qu'on peut mettre en doute. Du reste, si les signes étaient trop évidents, je veux dire, quel mérite aurions-nous? Il n'y en aurait aucun. Il n'y aurait qu'à se prosterner et adorer. C'est tout. Si Dieu apparaissait dans sa grandeur, l'homme n'aurait plus aucun mérite. Là, il faut savoir déceler dans nos vies ce qui a été beau, ce qui a été bon, ce qui est dû à Dieu. Voilà. Et ça, ce n'est pas tellement facile, souvent, pour beaucoup.
Pour finir cette émission, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps, dans le temps qui nous reste, sur l'accompagnement que vous faites donc des personnes malades et des personnes en fin de vie. Ça fait donc maintenant un certain temps que vous accompagnez ces personnes. Vous avez pris votre retraite en 1988. Je ne sais pas si depuis 1988 vous faites cela, mais en tout cas aujourd'hui, ça fait quelques années. Vous avez des mots très forts. Hein. Vous dites que, à vous lire, je ne vais pas vous citer cette fois, mais on a l'impression que vous avez trouvé dans cette période de votre vie, qui est le grand âge, et particulièrement dans cet accompagnement, comme une vérité qui vous fait du bien, que les relations en fait, que vous avez avec toutes ces personnes sont des relations qui sont tout de suite denses, simples, on va dire authentiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la vérité de ces relations qui contraste à vous lire comme un petit peu avec aussi une certaine vie mondaine que vous avez eue. Enfin, c'est vous qui le dites. Hein, c'est...
Avec le grand âge, je me rends compte du caractère ridicule de ces mondanités qui peuplent notre vie. Ces dîners mondains, qu'ils soient officiels ou privés, dans lesquels on n'aborde que des sujets sans aucun intérêt. Et souvent, ça consiste du reste à dire du mal de son prochain. Tandis que lorsque vous vous trouvez en face d'un très grand malade, d'un mourant, à ce moment-là, vous vous rendez compte que l'homme est nu, il est vrai, il n'a plus à jouer les mondains, il a des choses à dire, et on est en face de la vérité humaine, vraiment dans la vérité humaine, oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques-unes des rencontres que vous avez faites? Vous citez par exemple une certaine Christiane, je crois, une jeune maman.
Oui, qui n'était pas chrétienne, mais qui, peu avant sa mort, je l'ai accompagnée pendant plusieurs mois, avant sa mort, elle me dit « Jean, je veux aller à la cathédrale Saint-Étienne. » Je n'ai pas demandé d'explication. Je l'ai emmenée. Elle était déjà très mal en point. Elle est restée une heure immobile devant le tabernacle. Il n'y avait personne dans l'église. C'était 2 heures de l'après-midi. Et en sortant, elle m'a dit cette phrase formidable. Elle m'a dit « Je suis venu confier mes enfants à Dieu. » Pour moi, elle a ajouté quelque chose qui m'a frappé. Mais alors, elle m'a dit « Pour moi, je n'ai rien demandé. » J'ai trouvé ce cri d'une maman fantastique. Et là, je me suis rendu compte que Dieu avait parlé.
Est-ce que vous pouvez nous parler de Jackie aussi? Jackie, c'est tout à fait un autre personnage, mais que vous avez accompagné aussi.
Jackie était un repris de justice que j'ai connu par le Secours catholique. On lui a apporté des vivres parce qu'il avait une famille avec 3 enfants. Et il avait faim, et souvent les enfants avaient faim. Alors on lui a apporté de quoi manger toutes les semaines. Et un jour de mois d'août, je lui ai dit « Jackie, je ne pourrai pas venir te voir la semaine prochaine parce que je pars à Lourdes. » Il me demande, qu'est-ce que c'est Lourdes? Alors je lui dis, voilà, c'est... je lui explique. Alors il me regarde avec un air de défi. Il me dit, mais moi je vais mourir. Il était malade, il avait un cancer. Moi je vais mourir. Je savais qu'il était solide. Je lui dis, oui, tu vas mourir. Alors il me dit, tu peux m'emmener à ton Lourdes? Je lui dis, écoute, je pars dans quelques jours. Je t'emmène si tu veux. Alors il est arrivé à Lourdes avec le pèlerinage national. Et on avait été retardé, il était tard. Il me dit, je veux aller devant la grotte. Je lui dis, mais non, tu iras demain, aujourd'hui. Là, il faut te coucher et dormir. Non, je veux y aller maintenant. Je l'ai amené en pleine nuit, devant la grotte. Et il n'y avait personne, sauf un enfant à genoux qui priait intensément. Et Jackie s'arrête, regarde la Vierge pendant une bonne heure. Et puis, il me prend le bras, il me dit, viens Jean. Et alors, il me dit, le rideau s'est déchiré, je vois clair. Maintenant, si Dieu veut me prendre, qu'il me prenne. S'il veut me laisser, qu'il me laisse. Et il est parti avec cette foi profonde qu'il a gardée jusqu'à sa mort. La veille de sa mort, j'étais allé passer la nuit près de lui parce que je savais qu'il allait mourir. Et au réveil arrive Françoise de Périnas, que les Toulousains connaissaient bien, qui s'occupait beaucoup des malheureux du quartier, et qui était venue dire adieu à Jackie, parce qu'il s'occupait des enfants du quartier des Isards. Et je dis à Françoise, eh ben rentrez, oui, Jackie est là, elle rentre, je reste à la porte par discrétion, arrive un costaud barbu. Je lui dis, monsieur, vous voulez... Je viens voir Jackie, je suis le représentant du Parti communiste. Mais je lui dis, écoutez, rentrez, Françoise de Vérina, c'est là. Il est rentré, je suis resté dehors, et je sais que Jackie a dit à tous les deux, voilà, jusqu'à présent, vous faisiez la guerre parce que Françoise, vous êtes cataloguée de droite, toi, tu es communiste. Eh bien, devant moi qui vais mourir, vous allez me jurer que vous allez travailler ensemble pour le quartier. Ils ont juré. Et quand j'ai revu Françoise, quelque temps plus tard, elle m'a dit, nous avons tenu parole.
J'ai commencé l'émission Général depuis Busque par cette phrase. La vie sur Terre est un rêve, il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard. C'est la période des vœux, je vous ai posé cette question aussi, un peu voilà, triviale, mais en même temps, derrière cette question, il y a quelque chose de profond, c'est un peu ce qu'on souhaite ou ce dont on rêve. Faut-il s'interdire de rêver, Général depuis Busque? Vous avez quand même une vie qui ressemble aussi à une grande aventure. La vie est aussi un rêve que l'on poursuit. Pourquoi vous avez cette phrase, la vie est un rêve, il faut se réveiller avant qu'il ne soit trop tard?
Parce qu'avec l'âge, je me rends compte, j'ai l'impression maintenant, j'ai la sensation maintenant que tout ce que j'ai vécu était une illusion, un
tout.
Rêve.
Tout, ça fait beaucoup.
Une illusion. Quand je prends mes mémoires, que j'ouvre une page, je dis, mais c'est pas moi, ça n'a jamais existé. Et ce qui est frappant, c'est que maintenant, les plus grands savants disent que la vie n'est qu'une illusion. Le temps et l'espace sont illusions et la vie humaine, donc, est elle-même une illusion. Donc, je suis en bonne compagnie avec eux lorsque je dis que la vie humaine est une illusion.
Mais comme chrétien, qu'est-ce que vous diriez? C'est-à-dire que quelle leçon vous tirez du fait de voir la vie du haut de vos 96 ans, et qu'est-ce que vous pourriez nous dire à nous qui sommes loin de cette étape?
Je dis que...
À côté de quoi ne faut-il pas passer? Que faut-il se souhaiter réellement cette nouvelle année?
Je dis que Dieu est la seule vérité. Que tout ce que nous vivons sur Terre n'est que, je le répète, n'est qu'illusion. Et que notre vie n'a aucun sens s'il n'y a pas ce Dieu d'amour qui nous attend. Et ça, j'en ai, non pas la conviction, mais la sensation très forte que c'est vrai.
Voilà, bah merci beaucoup, Jean-Gérald de Puybusque, d'être venu. Vous avez aussi cette phrase, les années ont passé, vient le temps des choses sérieuses. C'est une manière peut-être sérieuse de commencer la nouvelle année, mais voilà, il y a des choses sérieuses qui ressemblent au visage d'un enfant, puisque c'est ce qu'on a célébré récemment. Merci beaucoup, Jean-Gérald de Puybusque, d'être venu. Voilà, nous partager un petit peu de votre existence et par la même occasion de ce qui fait notre chemin. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.